Les séminaires du Collège de France.
Depuis l'année dernière, avec l'arrivée de GPT, GPT-4 et tout ça. Et je suis très curieux de savoir ce qu'il va nous dire. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. J'aimerais beaucoup remercier le professeur Timothy Gowers pour l'invitation. Et c'est un grand honneur pour moi de donner ce premier séminaire, le premier exposé du séminaire de la philosophie dans la pratique des mathématiques. Alors, moi je m'appelle Amaury Ayat, je suis professeur de mathématiques à l'École des Ponts Paris Tech. Et en particulier, je ne suis pas philosophe des mathématiques, et donc je vais surtout parler de la pratique des mathématiques, et dans le cas qui nous intéresse, de l'IA dans le futur de la pratique des mathématiques. Alors, je commencerai par vous dire que, si jamais ça va le faire fonctionner, voilà. Je commencerai par vous dire que nous, la majorité d'entre nous ici, nous utilisons tous des outils d'IA au quotidien, depuis un certain moment, et parfois sans en avoir conscience. C'est le cas, par exemple, quand vous utilisez des réseaux sociaux, quand vous utilisez un certain nombre d'outils d'email, pour ceux qui ont des assistants virtuels, ou encore des plateformes. Mais en fait, tout simplement, si vous avez juste un smartphone, vous êtes susceptible d'utiliser des outils d'IA relativement au quotidien. Alors ça, c'est quelque chose dont on n'a pas souvent conscience, ou du moins dont on n'avait pas conscience il y a quelques années, même si c'était déjà le cas. Simplement, depuis un an, on entend beaucoup plus parler d'IA et des progrès de l'IA grâce à l'arrivée au grand progrès de l'IA pour le langage, et en particulier à l'arrivée d'un outil que vous connaissez tous, j'en suis sûr, qui s'appelle ChatGPT. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'IA pour le langage, ça n'est pas quelque chose de récent. C'est quelque chose, en réalité, d'assez vieux. Ça fait très longtemps qu'on essaie de faire de l'IA pour le langage. Ça a commencé à peu près vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, au moins à ma connaissance, avec les premiers travaux sur la traduction automatique. Donc, le but, c'était de savoir traduire d'une langue à l'autre, de français à anglais, anglais à allemand, enfin, essentiellement. Ça, c'était un problème quand même relativement dur, qui n'était pas du tout résolu à ce moment-là, qui n'était toujours pas aux années 2000, et qui a connu un nouvel essor quand sont arrivés les réseaux de neurones. Donc, c'est un peu les réseaux de neurones, c'est l'IA au sens moderne. Généralement, quand quelqu'un vous parle d'IA, il vous parle de réseaux de neurones. Et un tournant récent qui a permis ChatGPT, c'est l'arrivée en 2017 d'une architecture d'un certain type d'IA, une architecture de réseaux de neurones qui s'appelait le Transformer. Donc, le Transformer, ça a été introduit dans cet article-là en 2017, dans Attention is All You Need. Vous voyez que cet article a eu beaucoup de succès pour c'est un article de 2017 pour les gens qui sont familier du monde de la recherche, un article c'était 91 000 fois, c'est beaucoup. Cette architecture, elle a à l'intérieur un mécanisme d'attention qui lui permet de se concentrer sur les bons morceaux d'une phrase. Donc, par exemple, dans cette phrase-là, alors c'est, je ne pense pas du tout le meilleur exemple, mais dans cette phrase-là, vous auriez envie d'être capable, en lisant la phrase, de faire un lien entre « il » et « chaîne », puisque ça fait référence à la même personne. Donc c'est typiquement le genre de choses que cette architecture va pouvoir faire. Un an plus tard arrive, alors dans GPT mais pas que, arrive l'implémentation de ce transformer dans un mode qu'on appelle autorégressif, et je vous expliquais très rapidement ce que c'est, juste parce qu'on en aura besoin un peu après. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez donner en entrée, donc c'est comme ça que fonctionne ChatGPT, essentiellement tous les modèles GPT, au moins jusque-là, que vous connaissez. Vous donnez en entrée une phrase, et mettons que vous ayez une IA qui est entraînée à compléter votre phrase. Donc vous mettez chaîne d'entrée, puis le tirer ici. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer par regarder cette phrase, essayer de calculer une distribution de probabilité, donc distribution de probabilité du mot suivant, quels sont les mots en fonction de leur probabilité. Donc on va donner cette distribution de probabilité-là. Elle va tirer suivant cette distribution de probabilité. Donc ici, vu qu'elle tirait là, je pense que la distribution de probabilité, c'est essentiellement 1 pour il et pas grand-chose pour le reste. Donc ça va probablement tirer il. Et ça va remettre, c'est ça le côté autorégressif, ça va remettre à l'intérieur de l'entrée ce qui vient d'être tiré. Donc maintenant, votre modèle va prendre ça en considération. Chen t'entrait-il? Regardez une densité de probabilité, enfin calculer la densité de probabilité, ça c'est grâce à son entraînement, et puis tirer avec sa densité de probabilité. Donc là, bon, elle est un peu plus, elle est moins restrictive qu'avant, mais il est probable que 2 est quand même une très bonne probabilité, après t'entrait-il. Mais il y a d'autres choses, hein, ça peut être un point d'interrogation, aurait pu marcher. Et puis, pareil, on remet ça dans la phrase, chaîne tenterait-il de. Alors là, évidemment, il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles comme mots après, mais comme chaîne tenterait-il de lever la moustiquaire, c'est l'ouverture de la comédie humaine de Malraux, cette phrase existe sans doute en plein d'exemplaires sur Internet, et donc du coup, il s'est quand même, avec une bonne probabilité, à mon avis, on peut avoir levé. Et donc du coup, à la fin, on continue comme ça, et à la fin, on a votre phrase. Et puis, toujours un calcul de densité de probabilité, et on tire un point qui veut dire on arrête la phrase, et donc c'est bon, c'est fini. Et donc vous, ce que vous récupérez, c'est ça. Donc vous avez entré dans votre modèle chaîne d'entrée, vous avez récupéré chaîne d'entrée tilde de levée à moustiquaire, mais c'est ça qui s'est passé au milieu. Alors c'est la fin de ma petite introduction, vraiment en deux slides, de ce qu'est un transformer à un modèle GPT. Et cette présentation sera essentiellement en deux parties. Je vais commencer par parler de l'IA dans les mathématiques aujourd'hui, et j'espère vous convaincre que l'IA, c'est déjà utile aujourd'hui pour faire des mathématiques, c'est déjà utile pour les mathématiciens aujourd'hui pour prouver des nouveaux résultats. On verra si vous êtes d'accord avec moi à la fin de cette partie. Et une deuxième partie, où on va aller un peu plus dans le futur, on va se demander est-ce qu'une IA pourra un jour prouver des théorèmes, qu'est-ce qui est faisable et vers quoi on peut aller. Alors je vais commencer avec la première partie. Ouh, alors ça c'était inattendu. Ah oui, ça c'est... Alors là je suis un peu... C'est peut-être mon ordi, oui. Autant pour moi. Très bien. C'était mon ordi. Voilà. Non mais c'est bien, comme ça, je ne sais pas si vous étiez déjà endormi, mais au moins ça réveille tout le monde. Parfait. Alors, commençons donc avec les... Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que faire des mathématiques avec un ordinateur, ça n'est pas quelque chose de nouveau. Prouver des théorèmes avec un ordinateur, on a fait ça depuis longtemps. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Ah oui, alors là, vraiment, je collectionne, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, ah oui, ça c'est... Alors, attendez, on va essayer de faire une petite pause technique pour essayer de voir si ça règle le problème. Voilà, ça a l'air de régler le problème. Alors, il va falloir que j'oublie. Donc, un de mes exemples préférés, c'est celui-ci. Alors évidemment, en 1769, il n'y avait pas encore d'ordinateur, au moins de ce que je sais. Mais il y a Euler qui avait fait une conjecture, et sa conjecture, c'est s'il existe des entiers A1 jusqu'à AK, et puis B et N, tels que A1 puissance N plus A2 puissance N, etc., jusqu'à AK puissance N égale B à la puissance N, alors K est plus grand que N. Donc, autrement dit, si vous avez des entiers que vous mettez à la puissance N et que c'est égal à un autre entier à la puissance n, alors, à gauche, vous devez avoir au moins n entiers. Voilà, c'est une conjecture de Euler, et c'est un problème qui a été ouvert pendant presque 200 ans, c'est-à-dire que pendant presque 200 ans, les mathématiciens ne savaient pas si c'était vrai ou faux. Ils ne savaient pas, voilà. Et donc tout ça jusqu'à l'arrivée de Landor et Parkin en 1966. Et Landor et Parkin, ils ont résolu ce problème de la manière la plus basique que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire qu'ils ont essayé toutes les combinaisons possibles dans un ordinateur, essentiellement. Et ils ont obtenu ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a des nombres à la puissance 5 qui sont égaux à un autre entier à la puissance 5. Et donc, la conjecture de Euler dit qu'on devrait en avoir 5 à gauche. Mais là, on n'en a que 4. Donc la conjecture de Euler était fausse. Et c'est ça, ça leur a donné un article. C'est à mon avis, enfin, c'est à ma connaissance l'article de mathématiques le plus court que je connaisse, puisqu'il tient sur une seule slide. Mais c'était quand même un nouvel article. Alors c'était une preuve, mais c'était quand même surtout la preuve que même quand vous appelez Euler, vous pouvez faire des fautes, c'est juste que l'humanité met 200 ans à s'en rendre compte. Donc il y a un exemple un peu plus récent qui était la preuve de la conjecture de Keller dans un cas qui résistait bien jusque-là, en 2019. Et alors sans expliquer trop ce que c'est, parce que j'aimerais passer plus de temps avec les exemples avec de l'IA, mais c'est une preuve dans laquelle le mathématicien peut ramener ça à un certain nombre de cas simples à vérifier, le problème étant, donc cas simple c'est bien, le beaucoup c'est moins bien. Et c'est moins bien parce que ici, beaucoup, c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop pour un humain. Donc c'est pour ça qu'on utilise l'ordinateur. À tel point que quand on vous demande quelle est la taille de la preuve, eh ben on ne se demande plus combien de pages fait la preuve, mais combien de gigas fait la preuve. Et la réponse, c'est 200. Donc c'est à peu près 10 fois Wikipédia. Si bien que si je vous montrais la preuve, on ne serait pas sorti du séminaire. Donc je m'arrêtais sur l'exemple, mais ça, c'est pour vous illustrer que finalement, céder de l'ordinateur, on l'a fait depuis un certain moment. Alors je vais maintenant donner trois exemples où, en fait, pour essayer d'illustrer qu'on peut aller encore plus loin, je pense, avec des modèles d'IA. Et essayer de résoudre des difficultés qui posent de vrais problèmes aux mathématiciens des domaines concernés avec ces modèles d'IA. Donc je vais parler d'exemples dans trois domaines des mathématiques. Le premier, c'est la stabilité des systèmes dynamiques. Le deuxième, c'est la théorie du contrôle. Et le troisième, c'est la topologie. Et on va commencer avec le premier. Alors, dans la stabilité des systèmes dynamiques, on a un système d'équations différentielles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système d'équations différentielles? Et bien, on a un vecteur x qui dépend d'une variable. On peut l'appeler le temps, par exemple, tant qu'à faire. Le point ici, c'est pour la dérivée, donc ça c'est la dérivée de cette variable par rapport au temps, et c'est égal à une certaine fonction de ce vecteur. Donc c'est un système d'équations différentielles, ça peut représenter plein de choses. Ça peut être par exemple un point en chute libre, voilà, dans un point en chute libre vous avez l'altitude de votre chuteur qui est y, vous prenez la dérivée, c'est la vitesse, jusque-là, j'espère que ça va. Vous prenez la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération, en chute libre c'est moins g, alors peut-être pas à cette hauteur-là, mais normalement c'est moins g. Ça peut être l'avancement d'une réaction chimique, donc ça c'est une version extrêmement simplifiée de la réaction de fermentation que j'ai mis là. Ça peut être un modèle de croissance en économie, donc ça c'est le modèle de Solow. Mais ça peut aussi être juste un système mathématique, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une représentation physique derrière, ou économique, ou biologique. Ça peut être juste un système d'équations différentielles. Pour pouvoir en parler, il faut qu'on précise deux, trois autres choses. Donc ici, x a n composantes. F est une fonction qui est C1, c'est-à-dire qu'elle est dérivable et que sa dérivée est continue. Et puis f de 0 vaut 0. Donc 0 est ce qu'on appelle un équilibre, parce que si vous commencez à 0, eh ben vous avez f de 0, ça fait 0, donc la dérivée vaut 0, et donc vous y restez, à votre équilibre. Et donc la question qui se pose, c'est la question de la stabilité de cet équilibre, la stabilité du système. Évidemment, donc si je commence à 0, je reste à 0, mais la question qu'on va se poser, c'est si je commence pas très loin de 0, est-ce que je peux garantir que je suis borné, que je reste pas trop loin, quoi. Donc en termes plus mathématiques, ça s'écrit comme ça, est-ce que pour tout epsilon, il existe delta, tel que si la condition initiale en norme est plus petite que delta, alors la solution existe pour tout temps, et puis sa norme reste bornée par le epsilon. Donc, en termes mathématiques, c'est ce que je vous ai dit, et puis si j'essaie de l'illustrer un peu, c'est ça. On a une boule rouge, enfin un cercle rouge de rayon epsilon, et nous, ce qu'on aimerait, c'est choisir une boule bleue. On veut garantir qu'il existe une boule bleue, telle que si je commence dans la boule bleue, eh ben, ma trajectoire peut faire plein de choses un peu différentes. J'ai pas la prétention de savoir ce que la trajectoire va faire. Par contre, je peux garantir qu'elle va rester dans le cercle rouge. C'est ça essentiellement la notion de stabilité. Alors ça, c'est un problème qui a intéressé les mathématiciens depuis plus de 100 ans. Je pense que dans les choses connues, il y avait les travaux de Poincaré qui étaient relativement fondateurs. Il y avait le problème à trois corps dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il y a eu une grande avancée, il y a un certain temps maintenant, il y a un peu plus de 100 ans, par un certain Lyapunov. Alors qu'est-ce que Lyapunov vous dit ? Bien, essentiellement, il dit que si jamais vous arrivez à trouver une fonction qui est strictement minimum en zéro, qui tend vers l'infini à l'infini, est telle que quand je prends le gradient de cette fonction et que je fais scalaire avec la dynamique, ma fonction f, c'est plus petit que zéro pour tous les x, eh bien le système est stable. Alors évidemment, la définition n'a pas l'air très jolie, mais essentiellement ce que ça vous dit, c'est que si vous trouvez une fonction Lyapunov, alors votre problème est réglé, vous avez répondu à votre problème. Il suffit de trouver une fonction Lyapunov. Donc c'est un théorème très puissant, très beau. Il manque juste un petit détail. Ce petit détail, c'est comment on trouve la fonction Lyapunov. Et en fait, ça s'est avéré être pas tant que ça un détail, parce que c'est pas un problème si simple que ça. En particulier, là je vais montrer un exemple qui est simple, on va voir si vous pensez qu'il est simple, mais il est censé être considéré comme simple. Ce système dynamique-là, il a une fonction. Donc bon, on peut se demander, c'est peut-être pas évident, est-ce que toutes les trajectoires sont bornées sur ce système ? Je sais pas, enfin moi là, juste comme ça en regardant, ça c'est pas clair. Si vous avez un peu l'habitude, vous pouvez voir qu'il existe une fonction de Lyapunov qu'on appelle diagonale, c'est-à-dire qu'il y a x1, x2, x3, il n'y a pas de terme croisé. Mais même là, sur un exemple relativement simple, bon, on a déjà l'impression qu'il faut un petit peu d'entraînement pour savoir trouver la réponse. En fait, c'est un problème quand même suffisamment dur pour qu'aujourd'hui, ce soit complètement légitime de faire un article qui dit « Regardez, tel système a une fonction de Lyapunov ou tel système n'a pas de fonction de Lyapunov ». Ça fait un article de maths tout à fait légitime et puis assez bon. Alors ça, c'est toujours une question ouverte, puisqu'aujourd'hui, plus de 100 ans après, on ne sait pas avoir de façon systématique, on ne sait pas construire de façon systématique une fonction Lyapunov. Pour ceux qui étaient au cours de Timothy Gower ce matin, il y avait la question de savoir trouver un oracle, par exemple pour les graphes hamiltoniens. On ne sait pas construire un oracle qui permet de trouver une fonction Lyapunov. Et donc, quand on est mathématicien et qu'on n'a pas de méthode, que les méthodes habituelles ne marchent pas, qu'est-ce qu'on fait ? Dans ces cas-là, on s'en remet quand même beaucoup à l'intuition. Alors, l'intuition, c'est une notion qui est importante en mathématiques. Elle amène pas mal de débats. Est-ce qu'on a forcément besoin de l'intuition ? Est-ce qu'on peut toujours expliquer l'intuition ? Est-ce qu'on peut s'en passer ? Je ne vais pas du tout rentrer dans ces débats. Ce que je vais dire, c'est qu'ici, et dans un certain nombre de cas, l'intuition peut ressembler à une sorte de reconnaissance de pattern. Vous voyez, vous avez vu beaucoup d'exemples avant, vous savez comment ils fonctionnent, et pour une raison que vous ne savez pas expliquer, le fait d'avoir vu ces exemples vous donne une idée de ce qui va marcher dans un exemple que vous n'aviez jamais vu jusqu'ici. Mais le point clé, c'est que vous ne savez pas trop expliquer la raison, il y a probablement quelque chose, mais c'est ça, c'est un peu ça votre fonctionnement d'intuition sur ce genre de problème assez spécifique. Le truc, c'est que la reconnaissance de pattern, c'est quand même quelque chose que les IA savent faire généralement très bien. Et donc, on peut se demander, est-ce qu'on pourrait entraîner une IA à avoir une meilleure intuition que nous sur ce problème mathématique? Est-ce qu'on peut entraîner une IA à avoir l'intuition d'une fonction de Lyapunov? Et bien, c'est ce qu'on a essayé de faire, et c'est ce qu'on... Voilà, donc c'est la première tâche qu'on a donnée à une IA, l'entraîner pour deviner des fonctions de Lyapunov. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Je rappelle le problème, hein. Le problème, c'est qu'on a un système comme ça, et on veut que l'IA réponde, pour celui-là, par exemple, oui, c'est stable, et voici la fonction de Lyapunov. Donc, on veut que l'IA nous donne la formule à la fin. Hein. Alors, comment on a fait? C'est ce qu'on a fait avec Alberto Alfano et François Charton. On a choisi donc une architecture, on a pris un transformer, comme ceux dont j'ai parlé au tout début, mais beaucoup plus petit, pas autorégressif, mais beaucoup plus petit. On a généré plein d'exemples de problèmes et de fonctions Lyapunov associées. Alors ça je le mentionne en une phrase, mais c'est la grosse difficulté de ce problème. Comme c'est quelque chose qu'on ne sait pas résoudre, et avoir suffisamment d'exemples qui sont suffisamment diversifiés et suffisamment nombreux, c'est un problème pas simple à faire. En fait, c'est l'essentiel de l'article. Et puis, une fois qu'on a ça, on entraîne en lui montrant des exemples et des solutions, et on utilise un certain nombre d'exemples. On a utilisé 10 millions d'exemples, alors ça peut sembler énorme, mais le nombre, alors évidemment, le nombre d'équations différentielles non linéaires possibles, c'est un espace de dimension infinie, dimension infinie qui n'a même pas de base dénombrable. Notre générateur est fini, il peut générer quand même plus d'exemples qu'il y a d'atomes dans l'univers. Donc 10 millions, c'est pas beaucoup. Le miracle, c'est que ça fonctionne. Alors ça fonctionne, je vais expliquer ce tableau tout de suite. La première chose que vous pouvez voir, c'est que là j'ai mis différents types d'équations, qu'elles soient polynomiales ou non polynomiales, avec différentes tailles, différents nombres d'équations. L'IA, ça fonctionne essentiellement tout le temps. Alors je vous ai dit qu'on ne savait pas faire de façon systématique, trouver une fonction de Lyapunov. Il y a quand même des cas où on n'est pas trop mauvais. Ces cas, c'est quand le système est polynomial et qu'il a une fonction de Lyapunov qui est aussi un polynôme et qui est aussi une somme de carrés. Dans ces cas-là, on a des méthodes algorithmiques qui fonctionnent plutôt bien. Et l'état de l'art, je pense que c'est cette méthode-là. Et donc ici, on l'a testé sur les mêmes pour comparer un peu à l'IA. Alors, vous voyez que sur 2 à 3 équations, sur un dataset polynomial un peu chargé, elle arrive à 78%, ensuite 16%. Ça ne peut pas faire le non-polynomial, puisque justement, c'est le cas qu'on ne sait pas faire. L'IA, elle, voit à peine la différence. Alors, évidemment, quand je fais ça, il y a quand même une petite astuce derrière qui n'est pas de la triche, mais enfin, qu'il faut quand même prendre en compte. C'est que nous, on a appris, on a trouvé une méthode pour générer plein d'exemples. On a utilisé ça pour entraîner l'IA. Ensuite, on a généré d'autres exemples qui sont différents pour tester l'IA et cette méthode. Alors, on va être clair, il n'y a aucun exemple sur lequel l'IA est testée qu'elle a déjà vu avant. Sinon, ce serait vraiment de la triche. Mais par contre, peut-être que la façon de générer fait que la distribution des systèmes qu'on obtient est similaire et donc du coup ça biaise un peu l'IA. Donc on s'est dit on va tester sur un autre type de système. Alors comme on ne sait pas en générer parce qu'on ne sait pas résoudre le problème, on sait le faire au moins dans le cas polynomial. Dans le cas polynomial, on peut utiliser cette méthode algorithmique pour trouver des systèmes de manière peut-être beaucoup moins biaisée. Et quand on fait ça, en fait l'IA y arrive encore 83% du temps. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Je me suis dit que pour que vous puissiez comparer, je voulais vous donner une performance humaine et je voulais essayer avec moi, mais en fait, j'ai essayé il y a 2 semaines, j'en ai réussi 1 sur 4, j'ai essayé hier, j'en ai réussi 0, donc je me suis dit que je n'allais pas vous embêter avec ça. Je reviendrai quand il y aura des meilleurs résultats. Voilà, donc c'était mon premier exemple. Le deuxième exemple, c'est un exemple dans la théorie du contrôle, et là, on va plonger au cœur des mathématiques appliquées, puisqu'on va regarder un système d'évolution de la population des moustiques quand on essaye d'injecter des moustiques stériles, mâles, pour diminuer la population de moustiques et limiter les propagations d'épidémies. Pourquoi? Parce que les femelles ne vont pas faire la différence entre les mâles et les mâles stériles, et puis ça marche moins bien avec les mâles stériles, donc la population diminue, quoi. En particulier, il n'y a pas d'insecticide ni rien, c'est ça l'intérêt de cette méthode. Et puis je vois qu'il y a Luis Almeida dans la pièce, comme il fait partie des gens qui ont fait ce modèle. Si vous avez des questions, ce sera pour lui. Alors, donc, ici, on a donc un système, on a des œufs, on a les mâles, on a les femelles, on a les moustiques stériles. Et il y a dans ce système une quantité assez importante, c'est U, c'est le flux de moustiques stériles qu'on relâche. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut choisir. Allez, on élève des moustiques stériles et puis on les relâche. C'est ce qu'on appelle le contrôle en mathématiques. Et la théorie du contrôle, c'est si j'ai quelque chose que je peux choisir, comment je le choisis pour atteindre mon objectif. C'est ça le cœur de la théorie du contrôle en mathématiques. Et ici, il y a quelques contraintes, parce que c'est un problème physique. La première, c'est que le contrôle, il doit s'écrire sous la forme, ça doit être une fonction de M plus MS, le nombre total de mâles, et F plus FS, le nombre total de femelles. Bon. Alors, quelle est la question? La question, c'est, est-ce qu'il est possible de trouver F, tel que le système est stable? Maintenant, vous savez tout ce que veut dire le système est stable. Et en plus, on aimerait que la population de moustiques tende vers zéro. Donc les œufs, les mâles et les femelles, on veut que ça tende vers zéro. Et on va demander un tout petit peu plus, on aimerait aussi que la population de moustiques stériles tende vers epsilon pour epsilon aussi petit qu'on veut. Donc pas forcément besoin que ce soit zéro, mais on aimerait quand même que ce soit pas beaucoup. Et donc la question, c'est est-ce que c'est possible de fabriquer F? Et en fait, ce problème est un problème très dur pour deux raisons. La première, c'est cette contrainte-là qui fait que ça rend le problème assez compliqué d'un point de vue outil de la théorie du contrôle. Et puis le système avant, si vous regardez, il y a des fractions, ça, c'est généralement pas chouette dans un système d'équations différentielles. Ça veut dire que le système ne va pas être Lipschitz parce que, à cause du point vers zéro et puis pas continu. Donc c'est un système qui est compliqué à traiter et qu'on ne savait pas traiter. Et donc on s'est dit, ah, peut-être que là encore, on pourrait avoir une IA qui joue comme un oracle, une sorte d'intuition augmentée qui nous suggère une fonction f. Puisque c'est généralement plus facile, enfin pas toujours, mais c'est quand même généralement plus facile de montrer que f, quand on a l'expression et solution, que de trouver la fonction f. C'était un peu en lien avec le cours de ce matin, quand si jamais vous avez un graphe hamiltonien et puis un ordre, c'est plus facile de voir que ce graphe mis cet ordre, que cet ordre donne un cycle hamiltonien plutôt que d'essayer d'en trouver un depuis zéro, enfin depuis juste le graphe. Alors, la procédure, donc ça c'est une question ouverte, hein, et c'est ce qu'on essaie de résoudre. Donc la procédure, c'est quelque chose qu'on a fait avec Kalag, Bobidi, Jean-Michel Coron et Nathan Lichelet cette année. Alors, ça fonctionne de cette façon. On a d'abord un système d'équations qu'on va discrétiser à l'aide d'un schéma numérique pour le rendre essentiellement lisible par un ordinateur. On va avoir une IA qui va s'entraîner. Alors, elle va s'entraîner essentiellement elle-même, c'est-à-dire elle va essayer quelque chose, elle va voir si ça marche ou pas, elle essaye autre chose, et ainsi de suite, en espérant que ça converge vers quelque chose qui marche. Si ça marche, si l'IA arrive à converger, elle va vous donner une approximation numérique de la fonction que vous cherchez. Elle va vous donner une genre d'approximation de votre fonction. Et là commence le travail de mathématicien qui est de dire, ok, cette approximation de fonction, qu'est-ce que c'est? Enfin, à quelle fonction mathématique ça correspond? Et puis une fois qu'on est là, est-ce que toutes les parties de la fonction étaient nécessaires? Enfin, ouais. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc là, ça a marché, on calcule, ça converge. Et on arrive à ça, c'est-à-dire que là j'ai la fonction l'approximation numérique. Donc U, je vous ai dit, la fonction, c'est une fonction de deux variables, le nombre total de mâles et le nombre de femelles, total de femelles. Donc ça c'est les deux variables. Donc là ça va de 0 à 6 millions, oui, parce que j'ai oublié sur la contrainte physique, mais on peut avoir un nombre négatif de moustiques. Et puis voilà ce que fait la fonction. Donc bon, bah ici c'est 0, ici c'est 500 000 parce qu'on lui a mis un maximum, là encore c'est une contrainte physique. Bon. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois ça, ça ne m'inspire pas grand-chose. Enfin, je ne sais pas trop à quelle fonction ça peut correspondre. Fort heureusement, quand vous avez un doctorant très talentueux qui est dans le coin, il vous dit qu'il ne faut pas regarder ça, il faut regarder en échelle logarithmique. Et il a raison. C'est qu'en échelle logarithmique, c'est quand même beaucoup plus clair. On voit qu'il y a l'air d'avoir une zone où c'est tout le temps maximum, tout le temps minimum. Il y a une vague transition au milieu, et puis la séparation a l'air d'être essentiellement un truc un peu comme ça et un truc un peu comme ça. Alors évidemment, ce n'est pas exactement, parce que c'est une approximation. Mais ça donne déjà une bonne idée de ce qui a l'air de marcher. Et donc vous pouvez essayer. Donc on peut le traduire en termes mathématiques. Donc en termes mathématiques, ça donne ça, c'est pas très joli. Mais c'est là que commence vraiment le travail du mathématicien, c'est de se demander dans cette intuition qui m'était donnée par l'IA, quel est le cœur? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Et donc on essaie d'isoler ce qui fait que ça marche et on arrive au bout du compte. En fait, ce qui fait que ça marche, c'est cette frontière-là, ce ratio de logarithme qui est ce qu'il est, que moi j'aurais probablement jamais deviné. Et au bout du compte, ça fonctionne. Alors ça fonctionne, bon ça c'était pour illustrer que ça fonctionne, je pense que c'est pas si lisible que ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que la trajectoire va tout le temps rester proche de la frontière. Donc la frontière a une vraie importance, c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était le cœur. Elle va tout le temps rester proche de cette frontière et puis elle va diminuer jusqu'à effectivement avoir plus de moustiques. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, ça marche pour tout epsilon positif, ça a l'air de marcher pour tout epsilon positif, on n'a pas encore démontré ça mathématiquement. Mais quand on met epsilon égale 0, ça ne marche plus du tout. Ça, c'est à peu près une certitude. Et donc, malgré ce côté très approximatif des IA, très numérique de la fonction qu'on récupère avant d'en faire une fonction mathématique, on arrive quand même à avoir une bifurcation qui est assez subtile entre epsilon égale 0 et epsilon strictement plus grand que 0. Donc, c'est la fin de mon deuxième exemple. Je vais passer maintenant au troisième exemple sur lequel je vais passer très peu de temps. Je vous rassure. Le troisième exemple, c'est un exemple en topologie. Alors, en topologie, c'est tiré d'un article qui s'appelle Advancing Mathematics by Guiding Human Intuition with AI. C'est sorti dans Nature en 2021. C'est essentiellement par un groupe de DeepMind et le groupe de Jordi Williamson à l'Université de Sydney. Et donc, le principe un peu général qui ressemble beaucoup à ce que j'ai montré, c'est le suivant. Vous avez des objets Z, mathématiques qui ont des quantités x de z, y de z, et vous aimeriez savoir s'il y a un lien entre x et y. Et bah pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'entraîner une IA à prédire l'un en fonction de l'autre. Et si l'IA y arrive, c'est qu'il y avait un lien. Vous ne savez pas encore quel est le lien, mais si l'IA y arrive, c'est qu'il y a un lien. Sinon, elle ne pourrait pas y arriver. Ce n'est pas de la magie noire non plus. Et donc, mettons qu'elle y arrive, ça veut dire que votre réseau de neurones, votre IA, c'est essentiellement une fonction. C'est une fonction peut-être très compliquée, mais c'est une fonction. Et il faut maintenant essayer de comprendre, c'est là le travail du mathématicien, il faut essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de cette fonction. Et en faisant ça, ils ont réussi à faire plusieurs choses, et en particulier montrer un lien entre les invariants hyperboliques et algébriques des nœuds. Oui, donc je voulais dire que les nœuds, c'est le plongement d'un cercle dans la 3, mais si vous n'êtes pas familier avec ça, ça peut vous aider beaucoup plus. C'était juste, c'est dans un domaine relativement fondamental, on peut trouver des liens qu'on n'avait pas vus avant. Alors évidemment, c'est qu'une conjecture, hein, c'est-à-dire qu'après, il faut démontrer qu'il y a vraiment un lien, mais on a une bonne idée de ce qui se passe et de ce qu'on doit démontrer. Alors, je vais conclure avec ça, et j'espère que cette première partie vous aura convaincu que l'IA est déjà utile dans la pratique des mathématiques et a permis de résoudre plusieurs problèmes difficiles. Comment ? Eh bien, si on résume un peu, en formant l'IA, avoir une intuition meilleure que l'humain sur un problème spécifique. Et puis ensuite, on utilise cette intuition pour complètement court-circuiter la difficulté du problème. Alors, évidemment, quand on parle de ça, à chaque fois, c'est l'humain qui fait la preuve, c'est l'humain qui fait le raisonnement. L'IA, elle est là comme une aide, même si c'est la grosse partie de la difficulté, ça reste juste une aide. On pourrait se demander, est-ce qu'une IA serait capable de prouver un résultat mathématique par elle-même ? Et puis, une question sous-jacente, à laquelle je vais bien sûr me garder de répondre, c'est, est-ce qu'une IA pourrait raisonner ? Alors, donc on va regarder ça dans cette deuxième partie. Il y a plusieurs questions liées. La toute première, c'est est-ce qu'on peut automatiser le raisonnement humain ? C'est encore une question à laquelle je vais bien me garder de répondre. Est-ce qu'une IA peut trouver mais par contre, ce que je vais regarder, c'est est-ce qu'une IA peut trouver une preuve à un énoncé mathématique ? Oui, je disais qu'il y avait un groupe de recherche, dirigé par Timothy Goers, qui regarde plusieurs questions, dont un peu celle-là aussi. Alors, une première approche, une première chose que vous pouvez faire, c'est essayer d'entraîner un transformer, donc un modèle GPT comme ChatGPT, mais ChatGPT pour les maths. Ça a été fait en 2020, avant ChatGPT. Ça s'appelait GPTF. Et donc, votre ChatGPT, il fait quoi ? Vous lui donnez une question et il vous donne une réponse. Et bien, vous allez voir la même chose, mais au lieu de répondre des phrases, vous allez voir répondre des maths. Alors, comment vous allez voir que ça fasse ça ? Bien, vous allez voir que ça le fasse de façon autorégressive encore. Donc, vous avez un énoncé, vous calculez à partir de cet énoncé une distribution de probabilité de quelle est la première étape du raisonnement probable, donc vous tirez une première étape de raisonnement, vous la rajoutez dans la stack, à partir de ça vous calculez une deuxième distribution de probabilité, vous tirez une deuxième étape et ainsi de suite, et puis à la fin vous espérez que ça vous dise au bout d'un certain nombre d'étapes, quand on espère la preuve est correcte et juste, la densité de probabilité soit très pointée vers c'est la fin de la preuve, et donc on dit bah voilà, c'est la fin de la preuve, fin. Alors en vrai, quand vous avez un moyen de vérifier en live l'effet du step 1 sur l'énoncé, vous pouvez faire un tout petit peu mieux que ça. Vous pouvez dire, je prends un énoncé, comme tout à l'heure, je tire un step 1, je l'applique à l'énoncé, et là, ça me donne un nouvel énoncé. C'est l'état du problème après le premier state. Et à partir de ça, je tire un deuxième step, etc. Comme ça, à la fin, vous savez quand vous avez fini quand il n'y a plus rien à démontrer. Si vous êtes à nothing to prove, voilà, vous avez fini. Donc typiquement, dans un langage formel, ça voudrait dire que vous obtiendrez quelque chose comme 0 égale 0, par exemple. Voilà. Donc c'est ça l'espoir de cette approche. Alors, qu'est-ce que vous faites pour faire ça ? Vous allez évidemment l'entraîner avec des exemples, hein, des exercices et des preuves. Et quel est l'espoir quand vous faites ça ? L'espoir, c'est qu'en montrant suffisamment d'exemples à votre IA, juste en lui montrant les exemples, elle arrive à apprendre à démontrer, alors à raisonner, je ne sais pas, c'est vrai que j'ai marqué là, mais je devrais être plus précautionneux, à raisonner, je ne sais pas, mais au moins à démontrer des preuves mathématiques, juste en prédisant la prochaine étape à chaque fois. Alors on peut être sceptique, on peut l'être pour plusieurs raisons, hein. On peut être sceptique parce qu'on peut se dire, moi je pense qu'on ne peut pas apprendre les mathématiques juste en regardant des exemples et des solutions. Bon, moi je suis un peu de l'avis inverse en réalité, je pense qu'on peut plutôt y arriver, surtout quand on parle vraiment de ce nombre d'exemples, mais c'est tout à fait débattable. On peut être sceptique parce qu'on peut se dire une IA qui à chaque fois regarde un état de preuve et prédit juste la prochaine étape sans avoir la moindre idée de ce qui va se passer derrière, c'est extrêmement le nez dans le guidon. Enfin, comment ça pourrait marcher? Mais d'un autre côté, ChatGPT fait exactement pareil. Vous lui demandez d'écrire un essai sur la paix dans le monde, je suis sûr qu'il aura une super conclusion, et pourtant, à chaque étape, il regarde les mots un par un, quoi. Donc vraiment le nez dans le guidon. Enfin, il prédit les mots un par un. Donc, à la limite, pourquoi pas? Ce qui est sûr, c'est qu'on soit optimiste ou qu'on soit sceptique, pour que ça puisse marcher, il y a un truc clé, c'est qu'il faut vraiment suffisamment d'exemples. Ah, désolé, maintenant je connais la procédure. Donc, il faut vraiment qu'il y ait suffisamment d'exemples. Et suffisamment, ça veut dire quoi? Ça veut dire suffisamment diversifié et suffisamment nombreux. Il faut évidemment, si vous voulez espérer montrer des choses en topologie, si vous n'avez jamais vu un exemple de topologie avant, vous n'allez jamais y arriver. Suffisamment nombreux parce qu'il faut que vous en ayez suffisamment pour réussir à apprendre quelque chose derrière, à unir. Et c'est tout le problème. On a en fait très peu de données à disposition, en particulier des données formelles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une donnée formelle et une donnée informelle? Eh bien, quand vous faites des mathématiques, vous avez deux choix. Vous pouvez faire des mathématiques en écrivant ça dans un langage informel. Ça veut dire comme nous, comme la majorité des gens, on écrit en français, en anglais, donc, comme ça. Ou vous pouvez l'écrire de manière formelle, de manière qui peut être lue par un ordinateur et vérifiée automatiquement par un ordinateur, par un kernel. Donc ça voudrait ressembler à ça, c'est le même exercice. Hein. Donc on a déclaré deux variables dans R, on a dit A positif strictement, une deuxième hypothèse, la troisième hypothèse, et puis ce qu'il faut démontrer. Et puis là, techniquement, on devrait mettre la preuve. Donc voilà, on a deux choix. Il y a deux problèmes qui se posent quand vous essayez d'entraîner une IA à démontrer des maths avec un langage informel. Le premier problème qui se pose, il est assez clair, c'est que vous allez vouloir entraîner votre IA sur Internet au tout début, puisque vous allez vouloir en faire un modèle de langage. Et quand vous l'avez entraîné sur Internet, il y a beaucoup de choses sur Internet, donc si vous lui posez un petit exo comme celui-ci, il y a une probabilité assez forte pour qu'il soit sur Internet. Donc quelque part, ou qu'il soit de façon très proche sur Internet, donc quelque part, vous avez un peu triché si l'IA vous donne une bonne réponse. Puisque, bon, elle l'a déjà vu quelque part avant. Il y a un deuxième problème qui moi, je pense, est plus important, qui est un problème à plus à terme, c'est que c'est très compliqué de vérifier, vous n'avez pas de manière automatique de vérifier de façon sûre que l'IA ne vous dit pas de bêtises. Ça peut être soit vous sous-traitez à une IA le fait de vérifier la preuve, et je ne vais même pas en parler là tout de suite, mais ce n'est pas forcément mauvais, mais vous n'avez aucune garantie. Soit vous sous-traitez à un humain, mais là encore, vous n'avez pas de garantie, surtout si vous arrivez à des problèmes très compliqués. On pourrait imaginer que ça devienne plus facile à un moment pour une IA de trouver une preuve fausse, mais qui a l'air crédible et qui est difficile à voir, que de démontrer en fait le théorème pour des problèmes difficiles. Voilà, c'est déjà arrivé, c'est arrivé quand même régulièrement qu'il y ait des articles de mathématiques qui se soient avérés être faux après coup, et personne ne l'avait vu à l'avance, parce que les preuves sont très compliquées. Il y a un niveau où ça commence à devenir très compliqué de voir ce qui est vrai et ce qui est faux, ce d'autant plus que l'IA est capable de faire des étapes fausses qu'un humain ne ferait jamais. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est la raison pour laquelle je vais surtout parler de langage formel là maintenant, et puis il y a des approches qui marchent très bien quand même avec ça. Alors en langage formel, vous n'avez pas ces problèmes. Vous pouvez avoir un ordinateur qui vérifie tout de suite si ça a marché ou pas, et puis vous avez pas vous contrôlez beaucoup mieux ce qui était dans l'entraînement, et donc du coup vous n'avez pas ce problème de tricher, de données contaminées. Alors par contre, en langage formel, vous avez quand même assez peu de données. Vous avez de l'ordre de 100 000 théorèmes sur Lean, je crois. Lean, c'est le langage dans lequel j'ai écrit ça. C'est beaucoup pour l'humain, c'est assez peu pour l'IA. Et donc, du coup, c'est ça qui va donner une certaine limite à la méthode. C'est-à-dire que vous allez réussir à faire ça. Il y a des gens qui l'ont fait en 2020, GPTF. Ça arrive à démontrer des exercices de mathématiques, mais il y a une certaine limite qu'on ne peut pas dépasser, qui est un peu liée au fait que on n'a pas de très très bonnes données. On ne fera pas suffisamment. Alors si vous voulez vraiment voir comment on peut essayer de dépasser un peu ces limites, ou disons le maximum qu'on peut faire et ce qu'il faudrait faire d'un point de vue ingénierie pour ça, je pense que l'état de l'art sur ce genre d'approche c'est celle de Fabienne Glockleux dans un article il y a quelques semaines. Donc c'est le titre de l'article, qui illustre assez bien à mon avis qu'est-ce qu'on peut essayer de faire quand on a vraiment si peu de données. Alors, il y a une deuxième approche maintenant, c'est de se dire je vais traiter les mathématiques comme un jeu. Alors pourquoi je traiterais les mathématiques comme un jeu, à part que tout le monde sait que les mathématiques c'est vraiment très fun? C'est de se dire que finalement, en 2017, il y a une IA dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle AlphaZero, qui a appris à jouer aux échecs contre elle-même, et qui en 3 jours d'entraînement, alors 3 jours d'entraînement avec beaucoup de GPU, mais enfin 3 jours d'entraînement, est devenue essentiellement meilleure que tous les humains. Que tous les humains pendant un bon moment. Et donc on pourrait se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire pareil? On donne à une IA juste les règles du jeu, mathématiques, Et puis on essaie de voir si elle ne peut pas devenir meilleure que n'importe quel humain au bout de 3 jours. Ce serait chouette. Donc voilà, donc comment ce jeu se présenterait? Vous avez un énoncé que vous devez démontrer. Alors ici, un énoncé pas très dur, hein, cosinus x plus exponentiel x est plus petit strictement que 1 plus 2 exponentiel x. Vous jouez un coup, alors jouer un coup ça veut dire appliquer un théorème, donc vous appliquez un théorème. Quand vous appliquez un théorème, ça c'est vrai si vous arrivez à montrer les hypothèses, donc il ne vous reste plus que les 2 hypothèses à démontrer. Ici, vous pouvez de nouveau jouer un coup, alors il y a un théorème qui vous dit directement que ça c'est vrai pour tout x, donc du coup il n'y a plus rien à démontrer. Ici, vous avez joué un coup pour appliquer un théorème, vous avez ça à démontrer, vous jouez un coup, vous avez ça, vous jouez votre dernier coup, et puis il n'y a plus rien à démontrer. Vous n'avez plus rien à démontrer dans l'arbre tout court, et donc du coup, vous avez gagné. Voilà un peu le jeu. Alors, quand on fait ça, il y a quand même pas mal de difficultés. La première, c'est qu'entraîner une IA à jouer à un jeu à deux symétrique, c'est beaucoup plus facile qu'entraîner une IA à jouer seule contre son objectif. Alors pourquoi ? Parce que quand vous avez une IA, quand vous commencez à entraîner des IA, vous allez avoir des IA qui sont très très mauvaises. Et si vous l'entraînez à jouer des modèles l'un contre l'autre aux échecs, bon, ils sont très mauvais, tous les deux. Il peut toujours y avoir un match nul, mais au bout d'un moment, on peut comme espérer qu'au bout d'une partie, il y a un des modèles qui gagne. Même s'il est très mauvais, s'il gagne, on peut dire que cette façon de jouer était meilleure que cette façon de jouer. Et on peut se servir de ça comme données d'entraînement pour continuer à entraîner l'IA. Donc au bout d'un moment, ça va finir par s'entraîner, ça va finir par être assez fort. Si vous faites la même chose avec les mathématiques, vous allez commencer avec des modèles qui sont très nuls, vous allez lui donner un problème, il ne va pas y arriver, et il ne va jamais y arriver. Et donc, vous n'avez pas de données. Une autre façon de voir la chose, c'est essentiellement pour gagner aux échecs, il suffit d'être meilleur que la personne d'en face. En maths, pour gagner, eh ben, il faut être juste. On est dans un domaine où quand vous êtes presque juste, c'est faux. Bon, alors on peut tenter de corriger, évidemment, quand on est presque juste. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais... Alors, une deuxième différence, c'est qu'aux échecs, quand on joue un coup, on n'a toujours qu'une seule partie. Voilà. Moi, généralement, quand je joue aux échecs, je joue un coup sur l'échiquier, il n'y a toujours qu'un seul échiquier. Quand on joue de cette façon-là aux maths, eh ben, on applique un théorème. Maintenant, il faut vérifier les hypothèses. Eh ben, on peut avoir 2 choses à démontrer. Donc on est parti de 1, maintenant on en a 2. Puis si on fait ça de façon incontrôlée, on peut se retrouver avec 100 différentes choses à montrer, on espère qu'elles sont plus faciles, mais enfin, il y en a quand même un certain nombre à montrer. Ensuite, en mathématiques, c'est difficile de savoir automatiquement au milieu d'une preuve quelle est la probabilité que vous allez y arriver, que vous allez gagner. Aux échecs, il y a des méthodes qui ne sont pas du tout parfaites, mais qui existaient bien avant l'arrivée de l'IA, pour dire, je photographie une partie d'échecs. La plus basique des méthodes, c'est calculer le nombre de points de chaque côté, mais enfin, il y a des méthodes un peu moins basiques qui vous permettent de dire, celui-là est plutôt en train de gagner que celui-là. En mathématiques, à moins d'avoir fini les étapes cruciales de la preuve, et donc de voir que ça va marcher, essentiellement, vous entendez beaucoup de mathématiciens dire, ça va marcher, si vous n'en êtes pas là, c'est très dur de savoir si ça va le faire, et c'est encore plus dur de donner une probabilité. Alors si c'est dur pour un mathématicien, ça l'est encore plus pour de le faire automatiquement avec un critère automatique facile à expliquer à un ordinateur. Et enfin, une dernière difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités aux échecs, c'est-à-dire quand vous avez de l'ordre de 100 à 300 coups possibles, puis au fur et à mesure de la partie, vous en avez de moins en moins. Au Go, vous avez plus de coups possibles, mais ça n'a rien à voir avec le nombre de choses que vous pouvez faire en maths. Le nombre de théorèmes que vous pouvez appliquer, de changements de variables auxquels vous pouvez penser, de lemmes que vous pouvez essayer de faire, c'est immense. Et donc du coup il y a quand même beaucoup plus de possibilités, tout ça pour dire que c'est beaucoup plus facile d'entraîner, beaucoup plus difficile d'entraîner une IA à faire des mathématiques qu'à faire des échecs. Alors en pratique, malgré ces difficultés, comment on ferait? Donc ça c'est quelque chose qu'on a fait avec toute une équipe qui s'appelait l'équipe Évariste à MetaAI. Alors en pratique, on aurait 2 choses. Donc là je vais utiliser un tout petit peu le tableau. Vous auriez 2 modèles. Vous auriez un premier modèle qui est Pθ, qui cherche à prédire une étape de preuve, donc exactement comme le modèle GPT que je vous ai montré avant, hein, ça regarde l'énoncé et ça fait une densité de probabilité et puis ça prédit une étape. Et puis vous avez un deuxième modèle qui est assez intéressant, qui est celui qui va essayer d'apprendre, puis ensuite de prédire la difficulté à prouver un théorème. On regarde un énoncé, il va dire ça c'est difficile, ça c'est pas difficile. Bon, évidemment il est probablement assez mauvais à faire ça, mais enfin c'est une estimation. Pourquoi ? Parce que du coup, vous avez 2 choses que vous pouvez faire. Une fois que vous avez ça, vous pouvez dire, je fais comme avant, j'ai un énoncé, j'applique mon modèle, donc ça va me donner mon modèle, il a été entraîné, donc ça va me donner une distribution de probabilité. Je peux tirer une étape de preuve, qui est par exemple step 1, voilà. Alors je vais l'appeler A, voilà. Et vous pouvez vous arrêter là et puis dire, je fais ça, je le passe de l'autre côté, puis je passe à la suite, exactement comme ce que j'ai fait avant. Et puis vous pouvez aussi dire, attendez, une petite minute, Qu'est-ce que je peux avoir d'autre que step A? Donc j'en tire quelques-uns. Je tire step B, je tire step C. Et là, je vais voir qu'est-ce qui se passerait si jamais j'appliquais step A. Donc step A, c'est un théorème, il y a des hypothèses à vérifier. Donc j'aurai par exemple G1 à montrer et puis G2 à démontrer. Pour step B, j'aurai probablement quelque chose de la forme G3 et G4, par exemple. J'en mets deux à chaque fois, mais il n'y en a pas forcément deux. Ici, il peut y en avoir qu'une seule. Ici, je peux avoir G5, par exemple. Il pourrait y en avoir trois, il pourrait y en avoir quatre. Donc j'ai ces choses à démontrer. Et là maintenant, c'est là qu'intervient mon modèle pour essayer de prédire, dans un monde idéal, la difficulté. Il va regarder à tout ça et il va me dire si c'est dur à démontrer ou si ça ne l'est pas. Et peut-être qu'il va me dire, par exemple, oula, dans step A, G2, c'est à peu près impossible à démontrer. Ça va bloquer, c'est à peu près impossible à démontrer. Et donc, vous avez peut-être envie de vous dire, ah bah peut-être que c'était pas step A qu'il fallait faire. Peut-être que je peux en choisir un autre. Et donc, vous avez envie de brancher une sorte d'un ersatz de raisonnement, hein, on va pas appeler ça non plus un raisonnement, un ersatz de raisonnement qui est une capacité de chercher dans cet arbre de preuves des possibles pour essayer de chercher quelque chose un peu moins basique que ce dont on vient de parler juste avant. Donc vous avez couplé Pθ et Cθ, ces deux IA, la différente arborescence. Vous pouvez faire un tout petit peu mieux que ça, en fait, vous pouvez aller voir si ça marche, vous pouvez faire deux étapes, vous voyez si ça marche, donc c'est un peu ce que je montre là. Vous voyez si ça marche, et puis en fonction des scores, s'il y a quelque chose qui a été démontré, vous dites que le score c'est 1, et puis ici, sinon, vous utilisez le modèle, et ensuite vous essayez de revoir et de vous redonner de nouveaux scores. En fait, ça va donner des nouveaux scores à la fin à vos tactiques pour dire quelle est celle que je veux utiliser. Donc l'idée, c'est de faire ça de façon un tout petit peu plus, informée. Voilà, et alors ce que vous pouvez faire une fois que ça commence à marcher, c'est comme aux échecs, quand ça commence à marcher, si ça commence à marcher, vous pouvez utiliser, donc vous dites, voilà, là j'ai une partie que j'ai gagnée, j'ai un arbre de preuves qui a fonctionné, voici ce que j'ai utilisé, et bien vous pouvez utiliser ces données pour continuer d'entraîner le modèle Pθ et Cθ. Et donc dans l'espoir, vous avez une genre de boucle qui finit par vous entraîner votre modèle. Alors, comment ça se passe dans la pratique? Et bien dans la pratique, ce qu'on a à la fin, quand on fait ça, c'est une IA qui est capable de démontrer des exercices de niveau licence. Alors, évidemment, pas tous, hein, mais un certain nombre d'exercices. 30 à 60% d'exercices de collège, lycée, jusqu'à des niveaux parfois durs, hein, des niveaux d'Olympiade. Alors, ça dépend du dataset qui est utilisé. Il faut voir que pour une IA, démontrer un exercice d'Olympiade, c'est souvent plus dur que démontrer un exercice pris au hasard en licence, par exemple. Parce que la difficulté d'exercice d'application du cours existe moins pour une IA. Apprendre par cœur une définition n'est pas un problème. Connaître exactement. Donc les exercices qui sont des exercices où il n'y a que deux étapes à appliquer, mais il faut se souvenir de son cours, ne sont pas des exercices qui sont durs pour une IA. Des exercices d'Olympiade dans lesquels il n'y a pas besoin de connaître grand chose, bon, c'est ballot, l'IA connaît plein de trucs, mais du coup, il n'y a pas besoin de connaître grand chose et il faut trouver des astuces. Sont quand même assez difficiles, même si ça nous intéresse moins à nous les mathématiciens, c'est quand même dur pour une IA. Voilà, de temps en temps, ça arrive à faire des exercices tirés des Olympiades internationales des mathématiques. Alors j'en ai mis un ici que l'IA arrive à faire toute seule, montrer que pour tout n, 7 ne divise pas de puissance n plus 1. J'espère que je ne me suis pas trompé dans l'énoncé. Voilà, alors pour 1 et 2, c'est probablement pas très dur. Pour 3, c'est-à-dire que 7 ne divise pas de 9, je pense que ça va aller. Mais si maintenant n c'est 2 puissance 42, je sais pas, c'est. Voilà. Bon problème, je vous recommande. Vous pouvez essayer de vous comparer. Voilà, alors c'est un peu tout ce que je voulais dire. Alors quelles sont les perspectives? Mais alors j'ai l'impression que j'ai une ligne qui va apparaître deux fois. Donc ajouter du raisonnement humain, ce serait une des perspectives possibles. Pourquoi? Parce que là, on a vraiment branché un ersatz de raisonnement extrêmement basique. Si on avait une manière de dire, bah voilà, dans toutes les steps qui sont proposées, il y a des choses qui sont vraiment absurdes. Enfin, faudrait juste pas faire ça. Si on avait un moyen de dire ça ou de dire, par exemple, et c'est un peu mon deuxième point, ce qu'il faudrait essayer de démontrer, démontrer ce résultat, il faudrait d'abord essayer de montrer ces quelques états intermédiaires, ces quelques idées intermédiaires. Vous donnez tout de suite beaucoup plus d'informations à l'IA et c'est tout de suite un problème beaucoup plus facile. Alors évidemment, c'est toujours à double tranchant, c'est-à-dire que plus vous le faites ressembler à un humain, plus il fera pas différent. Mais voilà. Puis un autre espoir, c'est le fait d'obtenir plus de données formelles avec de l'autoformalisation. Donc ça, il y a des travaux de Wu et de Jiang en 2022, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres façons de faire que je n'ai pas mentionnées ici. parce que ça reste, ça aurait un peu dépassé le temps, mais je pense que c'est des belles façons d'essayer de voir ce que sera la preuve automatique demain. Alors, je vais m'arrêter là. C'est ma conclusion, donc. J'espère vous avoir convaincu que l'IA est déjà utile dans la pratique des mathématiques, mais si ce n'est pas le cas, je serais ravi d'en débattre. Et que l'IA, pour prouver des théorèmes, est encore balbutiante, c'est qu'il y a beaucoup d'idées, mais il y a encore beaucoup à faire. Je pense, mais ça c'est vraiment un avis personnel, là encore, on pourrait en débattre facilement, que la pratique des mathématiques va sans doute changer. Et ça n'est pas grave. Ça change continuellement, ça change régulièrement. Voilà, il fut un temps, c'était qu'un domaine un peu plus représenté qu'aujourd'hui, de savoir calculer les décimales de pi dans la recherche en mathématiques. Aujourd'hui, on fait moins ça. Il y avait toute une part de calcul qui a un peu disparu avec l'arrivée de l'ordinateur aussi. Et c'est pas plus mal, c'est juste dire que ça fait un peu des mathématiciens augmentés. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus que l'IA va pas remplacer les mathématiciens, juste leur donner de nouveaux outils. C'est de façon un peu grossière, c'est pas parce qu'on a une calculatrice qu'on a arrêté d'avoir des mathématiciens. Voilà, et donc ce sera tout, et je vous remercie pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.